VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Bamako, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, ne s'est toujours pas prononcé sur le maintien ou non du Premier ministre Yacouba Isaac Zida à la tête du gouvernement. L'armée burkinabé, en particulier le RSP, le régiment de sécurité présidentielle dont le lieutenant-colonel Zida a été le commandant adjoint, exige sa démission depuis la semaine dernière. Mais le Premier ministre refuse de jeter l'éponge. Que disent les formations politiques signataires de la charte de la transition de cette impasse? Bagassi Koura a joint à Blassé Ouédraogo, président du parti Le Faso, autrement.
Si les forces de défense et de sécurité de notre pays, c'est-à-dire l'armée nationale, décident de se retirer de l'organe exécutif, nous demanderons donc au président du FASO, président de la transition, d'appliquer la charte qui lui donne donc la prérogative de nommer le premier ministre et le gouvernement. Nous disons tout simplement qu'au niveau des politiques, ce qui est très important, c'est que, quelle que soit la personne qui va conduire notre pays dans les 94 prochaines journées qui restent avant l'élection, c'est que la date du 11 octobre 2015, la date des élections couplées législatives et présidentielles, ne soit pas touchée.
Il y a certains, comme Guy Hervé Kam du Balai Citoyen, qui disent qu'il faut l'accord de tous les signataires de la charte avant que le président puisse démettre son premier ministre.
Non, mais il faut demander à M. Kam d'aller lire la charte. Il n'a qu'à aller lire, tout est écrit dedans. Il y a une partie qui traite du chef de l'État, il y a une partie qui traite du gouvernement. Et ce que j'ai dit, c'est l'article 14 qui traite du gouvernement et qui dit que le président de la transition nomme le premier ministre et le gouvernement. Alors, si on nomme, on n'a pas besoin d'autre chose pour la démission.
Et Zida a dit qu'il n'y avait pas de crise au sein du gouvernement. Comment vous avez apprécié cela?
Non, je pense qu'il a raison de dire qu'il n'y a pas une crise au sein du gouvernement. La crise qui existe, c'est entre lui, Premier ministre, et le RSP. C'est vrai, il n'y a pas de crise au sein du gouvernement, mais il y a une crise entre lui et le RSP. Et personne ne peut fermer les yeux dessus. Nous vivons cette crise-là depuis le 30 décembre et c'est la troisième fois que ça se reproduit. Donc il y a quelque chose qui doit être fait.
Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso, autrement. En Côte d'Ivoire, plusieurs officiers de l'armée ivoirienne inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Une vingtaine d'inculpations qui comprennent non seulement des ex-militaires fidèles à l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, mais aussi d'anciens rebelles partisans de l'actuel président Alassane Ouattara. Un nouveau développement dont se félicite Florent Gel, responsable de la division Afrique à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme.
Les juges d'instruction qui sont en charge du dossier de la crise post-électorale au sein de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction ont inculpé ces derniers mois une vingtaine de responsables pro-SRCI, pro-Ouattara, dont des chefs importants, puisque Losseni Fofana, qui était le responsable FRCI de l'offensive pendant la conquête de l'Ouest, et notamment dans la ville de Djouékoué, a été inculpé, comme d'autres hauts responsables des FRCI de cette zone. Et ces inculpations, associées aussi à des inculpations de pro-Bagbo, démontrent deux choses fondamentales. La première chose, c'est que les enquêtes avancent en Côte d'Ivoire et le rééquilibrage des poursuites est en cours. Les rééquilibrages, évidemment, entre la centaine de pro-Bagbo qui sont inculpés encore à ce jour dans les dossiers de la crise post-électorale et les FRCI qui, jusqu'à maintenant, étaient une ou deux personnes qui étaient inculpées. Donc là, on assiste avec cette vague d'inculpations à un véritable rééquilibrage qui laisse penser qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne a accompli sa mue et est en train d'avancer de façon indifférenciée, de façon beaucoup plus objective que par le passé, et donc de façon indépendante.
Florent Gel, responsable de la division Afrique à la FIDH, au micro de Claire Morin-Gibourg. Et maintenant, un coup de projecteur sur la lutte contre la corruption dans le secteur pétrolier au Nigeria, avec Camille Gros-Didier.
Selon un projet soumis au président nigérian Muhammadu Buhari par ses conseillers, une réforme en profondeur du secteur pétrolier aiderait le Nigeria à payer quelque 20 milliards de dollars d'arriérés. Le mois dernier, le chef de l'État nigérian a limogé tout le conseil d'administration de la Nigerian Petroleum Corporation. Le secteur pétrolier est accusé d'être l'un des plus gangrénés par la corruption. Premier producteur d'or noir en Afrique, le Nigeria tire l'essentiel de ses recettes du pétrole, qui représente 90% des exportations. Mais une bonne partie de ses ressources semble s'évaporer.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise burundaise, l'Union panafricaine des avocats UPA et le Forum des organisations de la société civile est-africaine ont saisi la Cour de justice d'Afrique de l'Est pour lui demander de statuer sur la légalité de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle du Burundi qui a déclaré le 5 mai que le président burundais Pierre Nkurunziza pouvait briguer un troisième mandat. Au micro de Camille Rodidier, Maître Dieudonné Bachira Ishizé, vice-président de l'Organisation des barreaux d'Afrique de l'Est, explique les raisons de ce pourvoi en justice.
Ils ont décidé de saisir la Cour après avoir constaté que les conséquences de la crise burundaise affectent finalement toute la région. Il y a des réfugiés qui sont en train de se diriger dans les pays de l'East African Community. Il y a un risque de confrontation armée qui commence à se faire sentir. Et chaque État, en principe, qui entre dans une communauté s'engage à respecter scrupuleusement le traité. Or, le traité établissant la communauté est-africaine stipule notamment que l'État parti doit respecter les droits fondamentaux, c'est-à-dire le respect du principe de la légalité, la bonne gouvernance et les principes démocratiques, notamment même l'alternance démocratique. Les accords d'Arusha étaient clairs que la troisième candidature n'est pas possible. D'où ils ont été obligés de saisir la Cour, d'une part pour faire déclarer la décision de la CENI d'accepter la candidature comme illégale, tout comme l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui finalement n'a été arraché que par la pression et la violence.
Est-ce que la Cour de justice est-africaine a bien juridiction sur cette question?
Tout à fait. Chaque citoyen, chaque organisation de la communauté est-africaine, en vertu de l'article 30 du traité, peut saisir la Cour lorsqu'il y a violation des droits fondamentaux du droit de l'homme, lorsqu'il y a violation des principes démocratiques. Au sein de l'IASOF, il y a des organisations de la société civile burundaise et ils ont le droit de saisir la Cour pour dire si oui ou non telle décision qui a été prise par un État ou par une organisation du gouvernement, la Cour est habilitée à dire si oui ou non cette décision viole le traité établissant la communauté est-africaine. Si jamais la Cour constate qu'effectivement cette décision viole le traité, alors la Cour demande à l'État de reconsidérer la décision, faute de quoi il y a des sanctions prévues par le traité, lesquelles sanctions sont en principe mises en application par le secrétaire général de la communauté des États de l'Afrique de l'Est.
Maître Dieudonné Bachira Ishizé, vice-président de l'East African Law Society, joint en Tanzanie par Camille Rodidier. Le pape François continue sa tournée en Amérique latine. Sa deuxième étape aujourd'hui, la Bolivie, après l'Équateur en début de semaine. Le souverain pontife a déclaré hier que la protection de l'environnement n'était plus un choix, mais un devoir. Selon l'agence Reuters, le pape François, qui s'exprimait devant les indigènes de la forêt amazonienne de l'Équateur, a décliné les thèmes écologiques contenus dans son encyclique, publié le mois dernier. Idrissa Seloudia.
Le pape a renouvelé son appel en faveur de la protection de la région amazonienne, un écosystème qu'il a qualifié de vital pour l'ensemble de la planète. Il a expliqué qu'il souhaitait que son encyclique puisse influencer l'issue de la réunion sur le climat prévue au mois de décembre à Paris. Au mois de septembre, le souverain pontife se rendra aux États-Unis et s'exprimera devant les Nations Unies pour délivrer un message identique. Une chose est certaine, nous ne pouvons plus tourner le dos à la réalité, tourner le dos à nos frères et nos sœurs, à notre mère, la Terre, a-t-il affirmé lors d'un discours à l'Université catholique pontificale de Quito. Reprenant plusieurs passages de son encyclique, le pape François a expliqué qu'il existait un très solide consensus scientifique sur le réchauffement climatique et sur ses causes humaines.
Pour terminer, crise de la dette grecque, Athènes a officiellement présenté une nouvelle dette supplémentaire à l'Union européenne. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras se dit convaincu que son pays arrivera à conclure un accord avec les créanciers de la Grèce. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.